Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Als je bitch wil chillen is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb blank en drugs. Ik heb blank en drugs. Als je bitch wil chillen is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb blank en drugs. Ik heb blank.
Bonjour à tous. La légalisation du cannabis. Les Pays-Bas débattent actuellement d'un projet de loi qui permettrait la culture légale du cannabis à titre expérimental dans une dizaine de villes. Une petite révolution dans un pays qui, contrairement à sa réputation, n'a jamais vraiment légalisé cette drogue douce dont le statut reste très ambigu. Que va changer cette loi, notamment pour les célèbres coffee shops? C'est le reportage sur place d'Antoine Moutot.
À peine une centaine de mètres du siège du gouvernement, le coffee shop Dr. Green à La Haye accueille toute la journée ses clients consommateurs de cannabis. Le gérant de ce coffee shop est venu inspecter les lieux comme il le fait régulièrement. En raison du statut ambigu de son entreprise aux Pays-Bas, il souhaite rester anonyme. Nous l'appellerons donc Tom.
Pour l'instant, ce que nous faisons n'est pas complètement légal. À l'intérieur des coffee shops, la vente est tolérée. Ce qu'on appelle le Rudorbeleide, la politique de tolérance. Mais tout ce qui se passe avant, à l'extérieur, comme l'achat de la marchandise, est illégal.
Concrètement, et c'est toute l'ambiguïté de la législation actuelle, Tom, comme tous les autres gérants des environ 600 autres coffee shops des Pays-Bas, a le droit de vendre du cannabis, du moins 5 grammes maximum par personne. Sauf que pour se fournir, il est obligé d'acheter la marchandise à des réseaux criminels. Mais cela ne devrait plus durer très longtemps puisque dès son investiture en octobre dernier, le nouveau gouvernement du Premier ministre Mark Rutte l'a annoncé. La culture du cannabis doit être légalisée à titre expérimental dans une dizaine de villes du pays. Tom, lui, est ravi.
Nous allons de l'avant, c'est un progrès. Cela veut dire que les Pays-Bas s'adaptent un peu à notre époque. Nous ne sommes pas une organisation criminelle, nous sommes juste une entreprise qui fait ses achats différemment des autres compagnies. Si nous pouvions gérer ça nous-mêmes, nous pourrions ressembler à n'importe quelle autre entreprise.
Plusieurs villes comme Eindhoven, Tilburg et Breda se sont déjà portées candidates pour expérimenter la culture légale du cannabis. Il s'agira alors de cannabis d'État, sans qu'on en sache plus. À travers le pays, certains gérants de coffee shops sont inquiets. Ils craignent que le cannabis d'État soit moins fort et donc moins populaire que le cannabis actuel. Mais Tom, lui, est très confiant.
Cela ne peut qu'aller mieux avec la légalisation, car il sera possible de suivre des formations, des cursus pour cultiver du cannabis et faire fonctionner le secteur. Des étudiants pourront apprendre à le cultiver. Alors que pour l'instant, ceux qui ont les compétences n'osent pas se lancer car ce n'est pas encore légal.
Si la culture du cannabis doit bientôt être légalisée, c'est en grande partie grâce à la présence au gouvernement du Desessenzester, un parti centriste très libéral sur les questions sociétales et depuis longtemps en faveur de la légalisation complète des drogues douces. La section jeune du parti, les Young Democrats, ont même établi un classement des meilleurs coffee shops du pays. Kevin Bronger, c'est le président des Jeunes Démocrates.
En fait, ce n'était pas vraiment un test sérieux des coffee shops, mais plutôt une action ludique. Nous voulions surtout attirer l'attention sur le fait que la vente n'est pas du tout réglée comme il le faudrait.
Pour Kevin Bronger, comme pour une grande partie des membres et sympathisants du Desessenzester, la légalisation complète du cannabis est urgente et nécessaire.
C'est une évolution très positive. Il faut sortir le cannabis du circuit criminel. Il a été prouvé scientifiquement que le cannabis est bien moins nocif que certains types de tabac ou que l'alcool. Donc ce que nous disons, c'est sortons de la criminalité, arrêtons les tabous et faisons en sorte que les consommateurs sachent ce qu'ils achètent, car pour l'instant, il n'y a aucun contrôle. Donc il est important de se diriger vers la normalisation et la légalisation.
Devant l'entrée du Parlement et à quelques dizaines de mètres seulement du Torrentje, la petite tour en briques dans laquelle siège le Premier ministre, Hans Kampermann et quelques amis ont installé un stand ambulant de promotion du cannabis. Les yeux rougis, le corps un peu tremblant et frêle, Hans Kampermann a décidé de rester ici jusqu'à l'entrée en vigueur de la légalisation. Il admet que le cannabis rend dépendant, mais selon lui, c'est un faux problème.
Le tabac, c'est plus de 5 millions de morts chaque année dans le monde. On ne peut faire aucun usage thérapeutique du tabac, alors que le cannabis, si. Pour les problèmes du tabac et de l'alcool, on fait de la prévention. Il suffit de faire de la prévention aussi pour le cannabis.
Quelques jours après cette interview, Hans Kampermann a fait beaucoup parler de lui. Il s'est rendu dans le Parlement et en pleine séance, au nom de son combat pour le cannabis, il a tenté de se suicider en se jetant depuis le balcon des visiteurs.
Vooraf te laten toetsen door een overheidsinstantie of de persoon.
Les images de députés terrorisés ont fait le tour des Pays-Bas et de nombreux autres pays. Depuis, le militant très perturbé est sorti de l'hôpital. Ces derniers temps, on parle beaucoup du cannabis aux Pays-Bas. À contre-courant des projets actuels, Ronnie Flex, un jeune chanteur très populaire dans le pays, a récemment dit vouloir mettre fin à sa dépendance envers cette drogue. D'ailleurs, parallèlement à la légalisation de la culture du cannabis, le gouvernement va lancer une campagne pour informer les Néerlandais des risques liés à sa consommation. Une décision saluée par le Trimbaus Institute, l'organisation nationale de prévention contre les dépendances aux drogues et à l'alcool.
L'indépendance énergétique de l'Europe, tout un programme, et en ces temps de tensions extrêmes avec Moscou, tout projet qui vise à réduire notre dépendance au gaz russe est plus que bienvenu. C'est le cas du corridor gazier sud-européen, 3500 km de tuyaux qui vont acheminer du gaz d'Azerbaïdjan jusqu'en Europe. Son dernier tronçon, le Trans-Adriatic Pipeline, qui traverse la Grèce et l'Albanie, devrait rejoindre l'Italie d'ici la fin de l'année. Les banques européennes appuient sans réserve ce gazoduc géant. Mais dans les campagnes, en Grèce et en Albanie, des paysans se sentent lésés. C'est le reportage de Louis Seyé dans la campagne albanaise.
Déboulant d'un petit chemin en terre qui serpente dans une colline d'oliviers, Lulzim Alin descend de sa mobylette. Son visage est sombre et il ne cache pas sa colère. Derrière lui, un verger est désormais amputé d'une partie de ses arbres. Et puis à la place de ses vignes, il y a désormais les tuyaux du gazoduc TAP, le Trans-Adriatic Pipeline, qui viennent d'être mis en terre.
Moi j'ai perdu des terrains, j'ai perdu des vignes, j'ai perdu ce qui me permet d'apporter quotidiennement à manger à mes enfants. Tout ça, je l'ai perdu et je n'ai pas été indemnisé.
L'huile d'olive et la fruticulture sont les principales sources de revenus des habitants de la région de Berat, petite ville du centre de l'Albanie. Pour Lulzim, voir disparaître ses vignes et ses oliviers est un vrai coup dur.
Quand les responsables du projet sont venus, tous m'ont dit que je serais bien indemnisé pour les terrains, qu'ils allaient bien faire les choses, que je n'avais pas à me faire de soucis. Mais les compensations ont été minimes. Et combien c'est en Grèce? C'est 2000 euros un olivier, alors qu'en Albanie, c'est 150 euros.
À quelques kilomètres de là, dans la petite bibliothèque municipale de Berat, les représentants du TAP, le pipeline, ne tarissent pas d'éloges sur leur projet. Soucis de l'environnement et des populations locales, rénovation de routes et d'écoles, leurs affirmations semblent partagées par Jeff Jeter. Conseiller environnemental auprès de la BERD, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, il dirige une équipe chargée d'évaluer l'impact environnemental et social de ce projet énergétique, considéré comme prioritaire par l'Union européenne.
J'ai passé la semaine dernière à me rendre d'un bout à l'autre du tracé et j'ai pu observer comment le TAP réhabilite le terrain. Je suis vraiment impressionné par la façon dont ils essayent autant que possible de remettre le terrain dans son état original. Nous sommes très satisfaits de nos observations sur le projet. L'équipe du TAP a fait un très bon travail, tant du point de vue de la conception que de la construction.
Après la Banque européenne d'investissement début février, la BERD devrait également accorder un prêt important au projet, autour d'1,2 milliard d'euros. Pourtant, le long des 215 km du tracé en Albanie, beaucoup d'habitants se sont plaints d'irrégularités et surtout de la faiblesse des compensations. Chargé des questions sociales pour la banque, Debbie Cousins assure que l'institution européenne prend en compte ses préoccupations.
La majorité des personnes affectées est très positive. Ils sont satisfaits des compensations et du soutien qu'ils ont reçu du TAP. Mais il reste des gens qui ont toujours des demandes et des inquiétudes. Les choses peuvent prendre du temps avant d'être résolues et tout n'est pas noir ou blanc. Une consultation publique comme celle d'aujourd'hui est une bonne chose. Elle nous permet de mettre en contact des gens avec des représentants du TAP afin que leur situation soit clarifiée.
Cette consultation publique est l'une des rares occasions pour les fermiers affectés par le projet d'évoquer leurs problèmes. Mais aujourd'hui à Berat, seuls 3 fermiers ont fait le déplacement. Pourtant, Lulzim l'assure, beaucoup de ses voisins sont mécontents des conséquences du TAP. La construction du gazoduc a rencontré de vives oppositions en Grèce et en Italie. Mais en Albanie, un pays traumatisé par son passé totalitaire et où le clientélisme reste un fléau, la parole semble avoir du mal à se libérer.
Il y a plein de gens qui sont mécontents, mais ils ont peur de s'exprimer. Ce n'est pas bien. Il y a de la corruption. Les gens ont peur des pressions, de recevoir moins d'argent ou que les choses tournent mal.
Borana Nazifi travaille pour le comité d'Helsinki albanais, une organisation des droits de l'homme qui suit de près les requêtes des fermiers. Sous son bras, un rapport sur le projet TAP que son organisation compte remettre aux représentants de la banque afin que le montant des compensations soit réévalué.
Les fermiers ne sont pas contents de la façon dont ils sont indemnisés. Ils prétendent que la procédure n'est pas transparente et que les compensations ne sont pas basées sur la valeur réelle des arbres perdus. Si une personne a de très vieux oliviers, les compensations doivent être basées sur l'âge de ces arbres et les ressources qu'elles apportent.
De retour dans les champs non loin des vignes de l'Ulzim, Yeton n'est pas non plus satisfait par les compensations reçues. Alors que derrière lui, les camions de Spike Apag, une filiale du groupe Vinci, se succède bruyamment à destination du chantier, il montre de l'autre côté du fleuve le tracé du gazoduc.
Au total, on a perdu 450 arbres que le projet TAP a déracinés. Dès le début, on a dit que nous ne voulions pas d'argent, mais seulement que nos oliviers ne soient pas coupés. Le gazoduc passe ici et nous ne sommes pas indemnisés. Les compensations sont ridicules. Ce que l'on reçoit tous ici correspond à seulement une année de production. Tous nos biens, c'est ce que nous avons investi pendant 20 ans. Et à la fin, on nous le détruit. Qu'est-ce qu'on va faire ?
Selon ses promoteurs, le TAP devrait acheminer dès 2020 10 puis 20 milliards de mètres cubes de gaz naturel en Europe. Le soutien financier sans précédent que devraient apporter les banques publiques européennes à ce projet d'énergie fossile a été dénoncé par plusieurs ONG. Elles accusent l'Union européenne de renoncer à ses engagements concernant la réduction des émissions de CO2, mais également d'apporter un soutien indirect au régime très autoritaire du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.
La frontière entre la République tchèque et la Slovaquie marque-t-elle une séparation entre une Tchéquie libérale et une Slovaquie puritaine? C'est sans doute la conclusion à laquelle est parvenu le réalisateur tchèque Bohdan Slama, dont le film Ice Mother a été censuré sur la télévision slovaque. Une scène de sexe a tout simplement été coupée au montage. À Prague, Alexis Rosenzweig.
La sexualité des sexagénaires est un des thèmes abordés dans le film tchèque Baba Zledu, intitulé Ice Mother à l'international, et c'est une scène de sexe, bien que très pudique, qui n'a pas pu être vue par les téléspectateurs lors de sa première diffusion en Slovaquie, parce que la télévision publique a estimé qu'elle contrevenait à la loi sur l'audiovisuel pour une diffusion en début de soirée. Le réalisateur, Bohdan Slama, a crié au scandale. Son film vient d'obtenir 6 récompenses à la cérémonie des principaux prix du cinéma tchèque, après avoir déjà obtenu l'année dernière le prix du meilleur scénario au festival de Tribeca à New York. À sa sortie, il était interdit au moins de 12 ans en Tchéquie, au moins de 15 ans en Slovaquie. Ils se sont ridiculisés eux-mêmes, estime le réalisateur tchèque, à propos d'une censure d'autant plus surprenante que la télévision publique slovaque est un des coproducteurs de son film, diffusé le lundi de Pâques. Le jour saint aurait incité les censeurs à redoubler de vigilance, selon certains journalistes locaux. Le puritanisme d'une société slovaque très catholique parvient en tout cas encore à étonner les Tchèques, souvent désignés comme les Européens les plus athées du continent. Pourtant, l'actrice principale du film et de la scène en question est elle-même slovaque. La brillante Zuzana Kronerova a d'ailleurs obtenu la plus haute distinction pour ce rôle dans son pays et elle vient même d'être décorée par le président de la République. Elle a très diplomatiquement refusé de commenter cette affaire pour l'instant.
And said, oh, 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 though I still believe that there's more to
Le mondial de football se tiendra en Russie du 14 juin au 15 juillet prochain. L'occasion de découvrir comment ce sport a conquis les Russes. Régis Janté, vous êtes l'un de nos correspondants dans la région et vous publiez « Football, le ballon rond de Staline à Poutine ». On commencera par les origines. Comment le ballon rond a-t-il atterri sur une terre russe pas forcément adaptée à ce sport ?
En effet, la Russie est immense, pas pratique pour organiser des championnats et surtout, elle est bien trop froide. Mais comme partout, ce sont les Anglais qui ont apporté le ballon rond en Russie dans les années 1870 et c'est donc par les ports, d'abord celui de Saint-Pétersbourg, que le ballon rond a débarqué en Russie. Ce qui fait d'ailleurs qu'au tout début, seuls les Anglais pratiquaient le football sur des terrains autour des usines où ils avaient investi dans une Russie qui découvre alors l'industrialisation, le capitalisme, l'urbanisation et donc le sport moderne.
Et quand les Russes se mettent-ils au football ?
Ils s'y mettent peu à peu. Des clubs très british, comme le Cercle des Sportsmen, se créent dans les années 1890, où l'on pratique aussi le hockey sur glace, la lutte ou le cyclisme. D'abord, côté russe, ce sont les aristocrates qui tapent dans la balle, puis des bourgeois, la classe émergente des comptables et ingénieurs. C'est ainsi que l'on voit apparaître, par exemple, des championnats de datcha. Vous savez, ces résidences secondaires à la campagne qu'adorent les Russes, championnats dans les villes placées le long des voies ferrées. Il n'y a pas encore de championnat national. Il ne sera créé qu'en 1936. Et puis, les ouvriers organisent bientôt leur propre championnat, que l'on appelle sauvage, parce que le pouvoir tsariste se méfie des rassemblements populaires et les interdit, ce qui fait que les prolétaires jouent dans les terrains vagues, les cours d'immeubles et même les enclos des cimetières.
C'est un peu la lutte des classes sur le terrain, si on peut dire.
Un peu, oui, même si finalement, au fil des ans, tout le monde se mélange. On a l'impression que c'est vraiment la passion du football qui l'emporte, avec les premières vedettes qui, suprême honneur, se voient affublées de surnoms, parfois même anglais, comme l'attaquant Yevgeny Nikishin que l'on appelle Jack. C'est une passion envahissante qui va embarrasser les bolcheviks après la révolution de 1917, parce que pour eux, le football est un sport bourgeois aux antipodes de l'idéologie rouge.
Merci Régis Janté. Les tatouages sont de retour et en Bosnie-Herzégovine, les Croates ont remis à la mode des dessins traditionnels figurant des croix catholiques. Historiquement, sous l'Empire ottoman, ces tatouages servaient à marquer les jeunes filles pour éviter qu'elles ne soient enlevées par des musulmans. Après avoir complètement disparu, ces tatouages réapparaissent aujourd'hui sur la peau des jeunes branchés. Laurent Gélin.
Des croix catholiques entourées de cercles païens, symbole d'unité qui rappelle le kolo, la danse traditionnelle de la région, des points pouvant être associés au moulin du village, des sapins matérialisant le lien avec la nature, après avoir failli disparaître sous la période communiste. Depuis quelques années, les tatouages traditionnels ont la cote en Croatie et les amateurs font admirer les œuvres dessinées sur leur corps sur des groupes Facebook comme Traditional Croatian Tattoo. Aujourd'hui purement décoratifs, ces tatouages avaient un tout autre objectif sous l'Empire ottoman entre le 15e et le 19e siècle. En Bosnie-Herzégovine, on marquait avec une croix les femmes catholiques pour empêcher qu'elles se fassent enlever par la soldatesque ottomane, et si elles étaient tout de même converties de force pour leur rappeler à jamais leur foi chrétienne originelle. Selon les historiens de la région, les jeunes filles étaient en général tatouées entre 12 et 16 ans lors de rites de passage, mais également beaucoup plus tôt, vers 6 ans, si l'on estimait que le danger d'enlèvement était grand. Cette tradition s'est maintenue jusque dans les années 1950 avant de disparaître. Elle revient désormais à la mode dans les salons de tatouage les plus branchés de Zagreb qui proposent de dessiner des croix stylisées sur les mains, les bras ou dans le dos de leurs clients. Les amateurs collectionnent même de vieilles photos de femmes du début du XXe siècle pour retrouver le plus de modèles de tatouages possibles.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission, puis Accent d'Europe et sur les réseaux sociaux. À demain.